j'utilise le chant, j'utilise les objets, j'utilise les post-it, le dessin, la vidéo.
L'art contemporain, c'est cette hyper ou ultra sensibilité à son époque.
Patrick, je t'en prie, c'est quoi ce truc là?
C'est un sculpteur grec qui l'a fait. Takis Naadin Show, j'ai vu quoi. En Californie, c'est de la folie, tout le monde se l'arrache.
Et ça sert à quoi?
Ça sert à quoi? C'est de l'art, il est con celui-là. Ça sert à rien, tu mets ça chez toi et puis c'est tout.
Et donc qui est en relation très forte avec l'actualité, avec le monde dans lequel on vit.
En lien avec le design, en lien avec les industries, en lien avec le social, avec l'économie.
Chronique MP Vite, un rendez-vous mensuel avec l'art contemporain présenté par Pauline Venet.
Bonjour, donc aujourd'hui j'accueille deux membres de l'association Lille d'en face pour évoquer leur projet de plateforme curatoriale et présenter l'exposition Perspective pour hier qui aura lieu au blocos DY10 du 17 septembre au 16 octobre. Il s'agit en fait d'une carte blanche de MP Vite à Lille d'en face. On les invite et donc ils proposent une exposition, un artiste. Donc bonjour Antoine Bertrand et Laura Donnet.
Bonjour.
Bonjour.
Donc aujourd'hui on va discuter avec Romain et Pascal de votre projet et de l'exposition okay. Donc, qui a lieu à Nantes. Donc votre association a été fondée il y a à peu près un an avec Chloé Belin. C'est et ça. Officie dans le commissariat d'exposition. C'est-à-dire la réalisation et la mise en place d'expositions, de rencontres et de performances artistiques. L'île d'en face s'engage dans la production et la diffusion de la création contemporaine. Et donc, je voulais savoir sur quelles questions vous penchez-vous particulièrement avec cette association ?
Alors nous, on se penche plutôt sur des questions qui sont liées à la géopolitique, à l'environnement et au territoire. Donc voilà, ça passe par des pratiques qui sont souvent ancrées dans des recherches assez fortes et qui vont piocher dans différents champs disciplinaires qui peuvent aller du coup de l'ethnographie à la politique, aux sciences naturelles, aux sciences dures tout court. Enfin voilà, tout un panel de champs d'investigation que les artistes investissent pour créer leurs œuvres dans le cadre de ces problématiques-là.
Il réinterprète finalement ces disciplines ou ces propositions disciplinaires pour constituer leur œuvre, c'est bien ça ?
Il les réinterprète, oui, d'une certaine façon, mais surtout, ce sont des sujets d'études, en fait, pour eux. Par exemple, les événements politiques ou les processus à l'œuvre dans, je ne sais pas, le changement climatique ou des choses comme ça, ils vont interpréter, effectivement, les mécanismes à l'œuvre dans ces environnements, mais voilà, c'est plutôt un objet d'étude qu'une interprétation.
Après, ils ne vont pas prendre la place d'un scientifique, d'un anthropologue, d'un ethnologue, mais ils vont essayer de réinterpréter justement les méthodes de travail de ces différentes disciplines. Ils ne se prétendent pas être anthropologue ou sociologue, mais vont justement prendre ce qui les intéresse justement dans ces différentes disciplines pour pouvoir, eux, développer leur propre pratique qui va donc ne pas tendre vers l'objectivité scientifique pure et dure, extrêmement stricte, mais au contraire, aller vers d'autres formes aussi, plus poétiques, métaphoriques, et essayer de chercher donc une forme artistique en tant que telle.
Mais une forme qui va éclairer finalement ces questions-là, hein, si j'ai
oui,
bien compris.
Et donc, quels sont vos modes d'action concrètement? Quel type d'événement vous organisez avec l'île d'en face?
Concrètement, on développe principalement des expositions, mais sous différents modes, dans différents lieux, puisqu'on n'a pas de lieu, en fait, on est quand même MPVite nomade. Donc on essaye de développer des partenariats avec différentes associations, différents acteurs du monde de l'art, pour l'instant principalement sur Nantes, mais également en région et on l'espère aussi au-delà. Et donc ça va être des expositions, mais également aussi des projections, des conférences ou des débats. Pour l'instant, on n'a pas vraiment animé de débat à proprement parler, mais on aimerait pouvoir le faire aussi, voilà. On en est au début.
C'est une structure jeune, l'île d'en face.
Oui, on a été créé en juin 2015.
Et vous êtes artiste vous-même
Chloé et moi, non. Antoine
J'avais une pratique artistique, et encore, c'est difficile de la maintenir, mais pourquoi pas, oui, bien sûr.
D'accord, et donc vous avez aussi participé à Saison Partagée au Jardin C, c'est durant l'été.
Oui, alors Saison Partagée, c'est un projet, un dispositif qui a été initié par l'association MIR, qui a invité différentes associations à investir le Jardin C dans le cadre d'une saison, comme tu le disais Pauline, partagée. Donc c'est différentes associations, il y a Vlam Productions, MIR bien entendu, et également Moritobé, et donc l'île d'en face aussi, on a participé conjointement à animer ce lieu, à le faire vivre par différents événements, croisés ou pas, de chacune des associations. Nous, on a présenté 3 projets dans le cadre de Jardin C, une soirée de projection de films d'artistes qui a eu lieu il y a eu peu, un projet avec l'artiste plasticienne Maud Mandard et la performeuse Florence Joux avec des scies en coupe du bois, qui était une installation... c'est difficile de développer en 2 mots, mais une installation vidéo pendant 2 jours. Et également une projection de film autour de la question de la migration avec Tristan Grujard, qu'on avait invité à programmer avec nous.
Là, c'était plus des documentaires de création.
À rebours.
D'accord.
D'accord. Et donc, pour l'exposition qui va avoir lieu à partir de cette semaine, vous avez choisi d'inviter l'artiste ukrainien Miko Larini à exposer pour la première fois en France. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur le travail de cet artiste ?
Miko Larini, hein, c'est bien ça ?
Oui.
C'est ça.
Oui.
Oui, alors du coup, Miko Larini, c'est un artiste ukrainien qui on s'est intéressé un petit peu justement à la scène contemporaine, la jeune scène artistique ukrainienne et ou de l'Europe de l'Est, hein, qui a une dynamique très intéressante et très importante. Et en fait, le travail de Miko Larini s'est développé au début en fait sur une pratique de sculpture, parce qu'il faisait il a étudié à l'école des beaux-arts de Kharkiv dans le département de sculpture. Mais en fait, l'enseignement qui était donné était extrêmement académique, hein, très strict, peut-être un petit peu trop justement normé pour lui.
Réminiscence de l'ex-bloc de l'Est, peut-être.
Oui, peut-être. Je ne sais pas exactement de quelle manière ça se présente, mais ça c'est une chose qui l'a fait partir justement sur d'autres domaines où il s'est plutôt d'intérêt pour la vidéo, pour la photo, pour d'autres formes artistiques comme la performance aussi, où il a créé un groupe qui s'appelle le Soska Group, dans lequel justement ils avaient une pratique plutôt de performance ou d'installation. Et lui donc a choisi justement de s'intéresser à tous ces systèmes finalement de gouvernance, comment la société finalement ukrainienne aussi s'est construite, quelle identité elle peut avoir aujourd'hui.
Et il rejoint donc des considérations géopolitiques qui étaient évoquées tout à l'heure.
Complètement,
hein, c'est tout ça. À fait, ouais. Et social aussi, bien sûr, puisque donc voilà, justement cette identité ukrainienne, pardon, a été un peu justement malmenée pendant justement la révolution orange. Et donc lui s'intéresse donc à mettre en perspective justement différentes périodes, différentes manières de gouverner, donc forcément la période soviétique, mais aussi le système néolibéral qui a pris place donc après le bloc, la chute du bloc soviétique.
Avec une grande violence, hein, on peut
avec
dire,
une grande violence, ouais. Effectivement. Et donc aussi voilà, ces événements de contestation qui ont eu lieu en 2013 et 2014 et donc qui ont donné lieu donc au renversement du gouvernement, mais il faut savoir donc que l'Ukraine est toujours plus ou moins en guerre, hein, donc ce n'est pas encore tout à fait fini, mais voilà, donc lui sa pratique ça a été ça, donc de s'intéresser à ces différents moments, ces différentes périodes, ces différentes manières finalement de gouverner et aussi de gérer cette société, quelle identité aussi se donnent les Ukrainiens, et donc en donner une autre lecture à travers ses œuvres.
Alors, Pauline le disait, hein, première fois qu'il est exposé en France, mais pour autant, c'est un artiste qui a parcouru l'Europe via des expositions, hein, beaucoup de pays européens. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, il a beaucoup exposé, notamment, donc forcément en Ukraine, mais aussi en Pologne, en Slovaquie, en Autriche aussi, puisque voilà, il y a une connexion très forte justement entre l'Autriche et l'Ukraine, mais aussi en Allemagne, en Angleterre. Donc voilà, un petit peu partout finalement.
Italie,
Et notamment voilà, Italie, Biennale de Venise, et voilà.
Mais cette exposition donc, est une exposition personnelle, et ça c'est aussi important de le souligner, puisqu'il a participé à énormément, il a une pratique très prolixe et très dense, et il a participé à de nombreuses expositions collectives, et la dernière exposition personnelle qu'il a eue a eu lieu à Londres, dans une galerie qui s'appelle Eda Lassanti, qui est aussi prêteuse pour cette exposition. Mais voilà, c'est aussi assez exceptionnel en fait, d'avoir une exposition de lui en France, et une exposition personnelle. On est très heureux de pouvoir...
montrer son travail. Et qu'est-ce qui vous intéresse principalement dans sa démarche
C'est cette dimension extrêmement politique aussi, extrêmement dynamique finalement, où même si les formes qu'il emploie peuvent être peut-être appréciées comme étant peut-être un peu anciennes ou finalement déjà vues, mais au contraire, lui, c'est cette manière finalement de, d'appréhender ces différentes... ces différents points de vue justement sur la société ukrainienne et cette manière finalement de condenser aussi différentes temporalités. Par exemple, il y a une vidéo qui s'appelle Fortress qu'on va présenter justement dans l'exposition où il va réutiliser finalement différents textes, différentes écritures sur des périodes plus féodales, hein, donc Moyen-Âge, mais tout ça avec des vidéos qui présentent finalement le manoir de l'ancien président ukrainien où finalement voilà, il avait aussi une collection justement d'objets du Moyen-Âge, et donc il met en perspective donc ces différentes périodes, ces différentes manières de contrôler finalement la société aussi, et donc de quelle manière aussi le peuple lui-même prend le pouvoir à un moment donné. Donc voilà, ça, c'est ces différentes manières d'appréhender les choses et de les rendre intelligibles aussi.
D'accord, et donc l'exposition Perspective pour hier et le titre en anglais Forecast for Yesterday se construit autour de trois axes qui correspondent chacun à un tunnel du blocus des Grecs 10. Parce que l'espace d'exposition est divisé en trois grands espaces à l'intérieur. Et, quelles œuvres et ensembles d'œuvres en fait, peut-on y retrouver dans chaque espace et quels discours y sont développés ?
Alors c'est une question assez vaste à développer en peu de temps là, tout de suite à l'antenne.
Il faut se rendre à l'exposition, c'est le meilleur moyen d'en savoir
exactement,
plus.
Exactement, il faut se rendre à l'exposition. Finalement, en fait, les trois tunnels ne sont pas de façon très stricte délimités dans des thématiques. Ils vont tous en fait aborder, comme le disait au préalable Antoine, les questions liées à la société. Donc on va avoir des questions liées à la société de contrôle, aux médias, à comment on va... être espionné ou des choses comme ça. On va aussi avoir en fait la vision que l'on se fait d'événements passés, comment notre mémoire en fait agit sur cette vision là par exemple avec Blind Spot, l'œuvre qui est dans le premier tunnel. Donc Blind Spot, c'est point aveugle, et là Micolarini s'est intéressé à un phénomène de la vision qui tout simplement est quand on essaye de regarder un point et qu'on fait la netteté sur ce point là si on s'avance, peut-être on va voir disparaître le point qui est à gauche ou l'objet qui est à gauche ou à droite, inversement si on regarde avec l'œil droit ou l'œil gauche. Alors, c'est très mal expliqué, mais
bon, si, tout à fait.
C'est cet angle mort en fait qui finalement obscurcit un peu notre vision. Et donc Blind Spot, c'est une série de photographies et de dessins que l'artiste a réalisé à partir de photographies de presse qui montraient des endroits qui avaient été objets de conflits armés ukrainiens, sur laquelle en fait il est venu projeter un spray de peinture noire qui finalement ne nous permet pas de voir l'entièreté de l'image, et c'est l'image qui est justement le visuel de cette exposition, tant sur le carton d'invitation ou peut-être sur les images que vous avez vues voir sur Facebook ou autres réseaux sociaux. Et donc cette image-là, un peu énigmatique, finalement nous parle de cette vision que l'on peut avoir des événements et de cette mémoire qui va occulter des choses. Voilà. Finalement, ce rapport à la mémoire, ce rapport, tu m'arrêtes Antoine si je me trompe, à la société de contrôle et à comment on va construire l'histoire de demain ou le futur, comment on va essayer d'avoir une vision, une projection sur le futur, c'est lié à toutes les œuvres et aussi donc finalement à l'ensemble de l'exposition, et c'est le pourquoi de ce titre « Perspective pour hier », qui est une espèce d'oxymore un peu étrange. Comment avoir une perspective sur hier.
C'est un beau titre en même temps, je trouve.
Oui, ça réunit bien l'idée de vouloir parler donc de la période guerre froide, pré-Maïdan, Maïdan et post-Maïdan, parce que vous avez fait comme une sorte de petite frise chronologique pour...
Il y a un peu cette idée, oui, justement, mais donc voilà, où finalement, dans la première partie, le premier tunnel, justement, voilà, ça parle un peu de cette période avant, ça met justement en confrontation donc différentes temporalités, encore une fois, et le deuxième tunnel, lui, s'intéresse
m'intéresse effectivement un peu plus en profondeur sur les méthodes aussi gouvernementales, de contrôle, mais aussi ce que ça peut créer dans la société, donc justement comme cette pièce qui s'appelle Under Suspicion, où justement voilà, c'est toute une méthodologie de contrôle qui, où voilà, le gouvernement prend des photos inlassablement donc, de personnes sans pour autant finalement pointer une personne en particulier, mais finalement c'est des images qui peuvent être réutilisées ensuite, donc faire des connexions entre les différentes personnes. Donc, voilà,
c'est vraiment un artiste qui produit à propos et en appui de réalité sociale et politique, hein, c'est ça.
Tout à fait, oui. Et donc voilà, exactement, et justement le troisième tunnel, lui effectivement on a donc contrairement à cette progression chronologique, donc avant, pendant et après Maïdan, on a quand même une vidéo qui s'appelle Dima, qui est donc le prénom en fait d'un ancien policier ukrainien, donc qui était lui-même engagé donc justement dans ce système du contrôle, et donc il a choisi de quitter en fait le corps de police pour vraiment se démarquer complètement de cette emprise, justement de cette manière de gouverner, et donc voilà, on en apprend un petit peu plus sur sa vie, sur pourquoi il a choisi de quitter, et donc ce qu'il fait aujourd'hui.
Et ce qui est important de souligner, ce que tu voulais dire je pense Antoine, c'est que cette vidéo a lieu avant les événements de Maïdan. Voilà.
Juste simple.
Donc cette exposition sera retrouvée au Blockhaus des Y10 du 17 septembre au 16 octobre pour un peu plus d'explications sur exactement toutes les œuvres d'artistes. Déplacez-vous, c'est ce qu'il y a de mieux.
Voilà, on sera là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. Voilà.
Venez découvrir les œuvres de Mikola Rigny.
Le vernissage sera vendredi 16 septembre, cette semaine, donc dès 18h30, en présence de l'artiste, de l'équipe de MP Vite, Romain Boulet et Lille d'en face. Donc l'adresse du Blockhaus des Y10, c'est 40 rue de la Noue Bras de Fer. Et ce sera entrée libre du mercredi au dimanche de 14h à 19h.
Exactement.
Voilà,
exactement.
Toutes les informations à retrouver sur mpvite.org et lilledenface.com.
Et sur votre Facebook.
Exactement.
Et on remercie MPVite et le Blockhaus aussi, bien sûr.
Les post-it, le dessin, la vidéo.
C'était la chronique MPVite.
L'art contemporain.
À retrouver sur le www.jetfm.asso.fr.
Cette hyper ou ultra sensibilité à son époque.
C'est de l'art, il est con celui-là. Ça sert à rien, tu mets ça chez toi et puis c'est tout.